Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le tribunal pénal économique et financier chargé de réprimer les infractions économiques et financières en République démocratique du Congo a été créé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, par ordonnance et loi du 14 mars 2026. Cette juridiction spécialisée a comme objectif de renforcer la lutte contre la criminalité économique, entre autres la corruption, les détournements des deniers publics, l'enrichissement illicite ou encore le blanchiment des capitaux. Il disposera d'une autonomie fonctionnelle et d'un budget propre inscrit au budget national. Dans la même optique, il s'est tenu à Kinshasa le vendredi 20 mars une journée de plaidoyer sur l'appropriation de l'application Tofungola Miso, en français ouvrant les yeux, structure initiée par Mme Elodie Tamuzinda. Elle a réuni des députés et sénateurs membres du réseau parlementaire africain de lutte contre la corruption, en sigle APNAC. Cette application numérique permet à tout citoyen congolais de dénoncer des faits de corruption de manière anonyme ou non. L'initiative est portée par l'Asbel Dignité Humaine en partenariat avec la GIZ, coopération allemande et l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC. Au vu de toutes ces initiatives, quelle évaluation peut-on faire de la lutte contre la corruption en RDC? C'est l'objet de l'émission de ce soir et nous recevons ici, dans ce studio, Mme Elodie Tamuzinda. Elle est coordonnatrice des dignités humaines Asbel. Elle est experte électorale et experte en résolution de conflits. Bonsoir Mme Elodie Tamuzinda.
Bonsoir chers partenaires et à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Et également ici au studio, Prosper Tunda Kasongo, il est député national élu de Kibombo dans la province de Maniema. Il est président national du parti des démocrates humanistes, PDH en sigle, parti politique membre de l'Union sacrée de la nation. Il est aussi membre du comité exécutif du réseau des parlementaires africains contre la corruption APNAC en sigle, chargé des médias. Bonsoir honorable Prosper Tunda Kasongo.
Bonsoir Guy Maté. Très content d'être à la Radio Okapi.
Merci. Et en ligne, Ernest Mpararo, il est secrétaire exécutif de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption, Lukoko en sigle. Il est aussi le point focal en RDC de l'ONG Transparency International. Bonsoir, monsieur Ernest Mpararo.
Oui, bonsoir, monsieur Guy. Bonjour, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Selon Elodine Tamuzinda, coordonnatrice de l'Iceberg Dignité Humaine, cette journée de plaidoyer s'est transformée en cadre d'échanges approfondis au regard de l'intérêt manifesté par les parlementaires. Elle appelle les Congolais à plus de vigilance et à dénoncer les faits de corruption, preuve à l'appui.
Nous parlons de corruption sous toutes leurs formes. Oui, mais c'est lorsqu'il y a enquête qu'on sait détecter et identifier ou différencier les infractions. Alors nous serons les sentinelles de nous-mêmes, les sentinelles des institutions et les sentinelles de notre développement.
Pour sa part, le député Jean-Pierre Passizapamba, président de l'APNAC, invite les élus à s'approprier cette lutte afin de combattre ces fléaux qui freinent le développement du pays.
Dans mon pays, ce que j'observe, le matin, on dénonce la corruption, à midi, on corrompt, et le soir, il y a encore une autre activité. Même si vous détruisez aujourd'hui, dans 10 ans, dans 15 ans, la bonne gouvernance va vous rattraper. Pour l'instant, nous prévenons tout le monde d'avoir l'amour patriotique, d'abandonner les antivaleurs.
De son côté, Benny-Laure Kamuziku, coordonnatrice adjointe en charge de la détection, prévention et administration à l'APLC, rassure sur les efforts en cours. Elle encourage la population à utiliser l'application Tofungola Miso pour dénoncer les cas de corruption qu'elle qualifie de véritable cancer pour la société.
Il faut dénoncer le fait de la corruption parce que la corruption est un cancer. Le couvrir, c'est détruire notre pays. Il faut donc le dénoncer pour permettre à ce que l'auteur de fait soit puni.
À cette occasion, l'Icebel Dignité Humaine a également présenté son plan d'action du projet avec l'ambition d'étendre la campagne de sensibilisation dans plusieurs provinces du pays.
Merci à vous, grâce à Mzati, Madame Elodie Tamuzinda, vous êtes justement coordonnatrice des dignités humaines Asbel, vous êtes experte électorale, experte en résolution des conflits. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste l'application Tofungolamiso que vous venez de mettre au point?
Oui, merci pour la question. Donc, l'application, c'est un outil numérique et qui a été initié par nos collègues au sein de la dignité humaine, nous tous ensemble, mais qui était une proposition que nous avons mise à la disposition de la société civile en général. Et par après, chemin faisant, nous avons compris que la société civile ne devrait pas travailler seule. Il fallait y aller avec les acteurs étatiques. Et avant d'y aller avec les acteurs étatiques, il fallait d'abord chercher un partenaire et nous avons eu l'accord de la GIZ, coopération allemande. Et par après, il fallait continuer à faire le plaidoyer jusqu'à arriver au niveau de la présidence où l'agence de prévention et de lutte contre la corruption a accepté de signer un protocole d'accord avec la dignité humaine ASBEL, mais aussi à la dignité humaine qui était déjà avec d'autres acteurs étatiques ou qui ont envoyé leurs experts que nous appelons des points focaux. Et chemin faisant, nous avons dit, mais par après, nous aurons besoin du cadre légal. Mais nous allons nous adresser à qui? Il faut que nous adressions au Parlement. Et pour nous, c'était un chemin peut-être dans lequel nous ne croyons pas assez. Nous savons comment les parlementaires sont trop occupés et même leur association APNAC qui est très sollicitée. Mais nous avons osé et nous avons trouvé les portes grandement ouvertes. Et nous qui croyons que nous allons plaider farouchement avec tout ce qu'il y a comme mécanisme de plaidoyer, nous avons trouvé réellement les portes grandement ouvertes. Et c'est là où nous sommes de plus en plus soulagés. C'est un ouf de soulagement puisque lorsque nous sommes avec les parlementaires, nous sommes avec APLC et nous avons les techniques, partenaires techniques et financiers et même d'autres acteurs étatiques et non étatiques en y allant ensemble, que ce soit une autre structure qui milite pour la lutte, l'ICOCO et les autres, nous les approchons, nous leur demandons leurs conseils, leurs orientations afin que nous puissions y aller en unisson.
Voilà, il est dit que cette application numérique permet à tout citoyen congolais de dénoncer des faits de corruption de manière anonyme ou non. Et il faut reconnaître que ça ne doit pas être, n'est-ce pas, un exercice facile dans ce sens qu'il n'est pas souvent facile, n'est-ce pas, de dire comment se manifeste la corruption. Mais est-ce qu'on ne va pas assister ou ça ne va pas donner lieu à des procès pour diffamation?
D'abord, parmi les motivations qui nous ont animés, il y avait notamment ces règlements des comptes, des clameurs des rues, et puis à un certain moment, c'est devenu comme une pollution au niveau des réseaux sociaux. Et nous, comme dignité humaine ASBEL, nous avons compris que ça faisait quand même atteinte à la dignité et à la vie des citoyens en général, pas seulement ceux qui dirigent, puisque nous croyons que seuls les dirigeants sont concernés, nous tous ensemble. Alors, il fallait chercher les mécanismes d'y aller sans heurte et d'une manière responsable. Comment est-ce que nous pouvons le faire tout en démontrant les faits avec les preuves, puisque l'application donne la possibilité de joindre des pièces, des preuves qu'on a, et entre-temps, il y a des échelons, puisque arrivé à l'APLC où les faits doivent être traités, et aussi doivent savoir qu'il y a le référencement qui doit être sobre et fluide, et dès que les cas sont référencés, on doit savoir auprès de qui c'est le parquet ou bien d'autres services habilités et concernés. Mais nous avons mis en place les comités mixtes des acteurs étatiques et non étatiques pour faire les suivis en amont et en aval et nous avons les mécanismes de les faire. C'est pour éviter qu'il n'y ait pas arbitraire. C'est pour éviter que tout ne se traite plus dans les réseaux sociaux avec des clameurs de rue.
Voilà. Et en plus de votre application Tofungolamiso, nous avons également rappelé ici que le chef de l'État vient de créer un tribunal pénal, économique et financier pour notamment lutter contre la corruption. Et Madame Elodie Tamozinda, au vu de toutes ces initiatives, comment vous évaluez la lutte contre la corruption dans ces pays?
Déjà, nous devons féliciter le gouvernement à travers cette initiative de mise en place du tribunal économique financier, puisque le cadre légal était aussi pauvre en rapport avec la lutte contre la corruption en RDC. Et du moment où nous voyons que de plus en plus, nous y allons dans le sens d'avoir des lois, d'avoir des décrets qui doivent accompagner cette lutte, pour nous, c'est un ouf de soulagement. En présence, nous avons l'honorable vice-président de la FNAC qui a initié même ces projets de loi sur la protection des lanceurs d'alerte, puisque ça aussi pour nous c'est vraiment une épine dorsale. Nous ne savons pas comment y aller sans être inquiété dans un environnement où lorsque vous dites la vérité ou vous dénoncez d'une manière objective, mais si ça gêne par exemple une autorité, ça risque d'avoir des représailles. Et c'est là où nous avons dit non, du moment où nous avons l'APNAC qui a associé, c'est lui qui a initié même cette loi. En tout cas, nous devons vraiment nous y accrocher. Et c'est pour dire que nous félicitons. Mais il y a des inquiétudes. Des inquiétudes, ce sont ces mesures d'application. Est-ce que ce sont les lois qui nous manquent? Non, nous avons besoin du cadre légal d'un côté. Mais le cadre légal n'est pas une fin en soi. Il doit y avoir nécessairement des mesures d'application. Nous sommes dans un pays où nous fustigeons la manière dont la justice se rend. Qui dit que ça ne sera pas une autre occasion de faire des règlements de comptes contre telle ou telle autre personne?
Justement, c'est ça la crainte.
Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour que cela soit fait d'une manière objective? Si nous ne les faisons pas normalement, comme des citoyens normaux, nous serons toujours moqués par le monde entier et nous ne sortirons pas de la liste grise des GAFI. Donc nous avons tout intérêt de travailler convenablement, mais dans la main pour que ça se fasse d'une manière sobre et sans arbitraire.
Alors donc, s'il faut évaluer, n'est-ce pas, la lutte contre la corruption, vous estimez qu'il y a des efforts qui sont fournis, mais il y a quand même des choses qui ne marchent pas encore?
Il y a des choses qui ne marchent pas et c'est pour cela que notre lutte n'est pas vaine. Et nous sommes là avec les gouvernants, avec les parlementaires, avec la société civile, pour voir comment nous pouvons y aller main dans la main et que cela soit fait d'une manière convenable. Et puis, n'oublions pas que lorsque nous sommes sur la liste grise, cela bloque l'investissement, ça bloque l'arrivée des investisseurs.
Justement, c'est ça, ce sont les conséquences, n'est-ce pas, des...
Ça bloque même tout ce que nous pouvons envisager comme développement durable. Mmh. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Travailler pour le développement durable de notre pays ou bien rester dans nos antivaleurs et continuer à être craint par tout le monde l'univers entier parle de la RDC. Mmh. La RDC, pays dernier sur la liste en ce qui concerne le développement, en ce qui concerne la corruption, nous ne pouvons pas continuer comme ça. C'est notre pays, nous devons travailler pour ça.
Merci. Je vais tourner vers l'honorable Prosper Tunda Kasongo. Il est député national élu de Kibombo dans la province d'Imanyema. Il est président national du Parti des démocrates humanistes PDH en sigle, parti politique membre de l'Union sacrée de la Nation. Il est aussi membre du comité exécutif du réseau des parlementaires africains contre la corruption APNAC, chargé des médias. Comment vous appréciez, vous également, la mise au point, n'est-ce pas, de l'application Tofungola Miso de Mme Elodie Tamozinda?
Merci beaucoup, M. Guy Maté. L'application Tofungola Miso, c'est une application, moi je l'ai déjà expérimentée par deux fois. Nous avons d'abord été au restaurant 19, avec des partenaires dont la GIZ. C'est là où j'ai appris que la dignité humaine a déjà mis en place une application pour que les gens soient capables de dénoncer le fait de corruption.
Et on procède comment? On télécharge ça sur le téléphone et puis c'est ça?
Exactement. Donc si vous avez votre téléphone Android, vous téléchargez Google ou Apple. Donc, vous écrivez.
Vous avez observé des indices de corruption?
Oui, tofungolamiso.org. Mm-hmm. Et puis, vous allez voir, ça va vous donner un formulaire que vous allez commencer à remplir. Et c'est très facile. Donc, si vous voulez rester anonyme, vous allez cliquer que je veux rester anonyme et vous dénoncez les faits, vous décrivez et il y a une rubrique donc où vous allez mettre les preuves ou les documents pour donc confirmer les faits dont vous dénoncez, et à la fin vous allez valider et ça va aller directement là où on va faire l'analyse.
Et quel est son apport, n'est-ce pas, dans cette lutte contre la corruption?
Vous savez, la corruption est un mal insidieux qui a beaucoup de conséquences. Donc, ça ne se fait pas en plein air. Alors, mais les gens constatent.
Les gens
n'ont pas la possibilité
de dénoncer,
surtout si c'est votre chef qui est à la base. Mais à travers cette application, donc on va dénoncer et ça sera documenté et ça sera analysé, et surtout que le gouvernement, la présidence de la République, a déjà une agence qui lutte contre la corruption. Donc on va analyser cela et ça aura toujours de conséquences, parce que l'effet final de la corruption, il faut réprimer.
Alors, on sent qu'il y a beaucoup d'initiatives, n'est-ce pas, pour lutter, pour combattre la corruption. Et comment vous évaluez justement la lutte contre la corruption dans ces pays?
D'abord, moi je commence par le chef de l'État, qui est le garant de la nation. Et hier, j'étais en train de suivre un de ses documentaires avant qu'il ne soit chef de l'État. Donc, il était en train de démontrer son ambition quand il sera chef de l'État, que son cheval de bataille sera la lutte contre la corruption. Parce que notre pays est par terre à cause de cette gangrène, de ce cancer, on peut l'appeler de tous les mots, parce que la corruption sape la démocratie et l'état de droit. Ça entraîne à des violences de droits humains. Ça fausse les jeux de marché, ça nuit à la qualité même de la vie. Alors, lorsqu'il est passé, donc c'est pour cela qu'il y a la PLC au niveau de la présidence. Ça, c'est un effort non négligeable.
Alors, APC, vous avez l'IGF, vous avez... comment vous évaluez? Il y a des structures, n'est-ce pas, qui ont été mises en place. Hein, et est-ce que vous pensez que la lutte s'est faite comme il se doit, ou alors il y a des points qu'il faut améliorer, qu'il faut corriger?
Il y en a beaucoup qu'il faut corriger, parce qu'il faut d'abord doter la République d'un cadre juridique. Donc il faudrait qu'il y ait une loi anticorruption, et ça, coup de chapeau au nouveau ministre d'État à la justice qui est déjà à l'œuvre. Moi-même, je suis allé à Bibois pour participer à l'enrichissement de ce projet de loi anticorruption. Et au courant de cette session de mars, je crois que le projet de loi sera déposé à l'Assemblée nationale. Et nous allons tout faire pour que ce soit parmi les lois prioritaires à adopter avant la fin de cette session.
À part les cadres juridiques, qu'est-ce qui manque, n'est-ce pas? Quel est une des pesanteurs qui ne permettent pas à l'État ou au pays de combattre efficacement la corruption?
C'est le manque d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Donc il faudrait, à part le cadre juridique, il faut que le pays soit doté aussi d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et puis, qu'il y ait aussi une loi qui est très importante, dont je suis porteur. C'est la loi portant protection des lanceurs d'alerte.
Ça, c'est important. C'est très important. Alors on a aussi l'impression que on commence quelque part, les processus sont enclenchés, on peut mettre la main sur des personnes qui ont été accusées de corruption et tout ça, des personnes sont jugées, mais la sanction ne suit pas.
Oui, c'est ce qu'il y a. C'est la lutte. Parce que pour la corruption, il faut d'abord, nous, au niveau du Parlement, dans la PNAC, nous d'abord, on cherche la prévention. Comment prévenir?
Comment prévenir?
Voilà. Oui, la corruption, et comment lutter et comment réprimer. Oui, c'est ce qui reste. Et c'est ça que la lutte doit beaucoup être intensifiée, avec des mesures d'application des lois qui sont sur chantier.
Et qu'est-ce qui gêne la répression dans ces pays? Est-ce que ce ne sont pas, une fois de plus, les interférences politiques? Ou les impératifs politiques?
Nous pensons que la chaîne de corruption. Oui. Si dans la corruption, les corrupteurs, donc ils savent mettre tout le monde dans le jeu. Et maintenant, pour sanctionner, ça devient un peu compliqué. Et parce qu'il y a l'indépendance des institutions. La justice est indépendante. Mais s'il y a un fait de corruption où la justice aussi est mêlée, vous allez vous attendre à quoi? Donc c'est ça, de tout ça que nous sommes en train de lutter lorsqu'on va doter le pays de cadres juridiques et d'une loi qui protège les lanceurs d'alerte à tous les niveaux. Je crois que les choses vont bien marcher.
Merci Ernest Impararo, secrétaire exécutif de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'UCOCO en sigle. Vous êtes aussi le point focal en RDC de l'ONG Transparency International. Quelle évaluation vous faites de la lutte contre la corruption en RDC, Ernest Impararo?
Oui, merci beaucoup. Bonsoir encore aux débatteurs. Effectivement, au niveau de la LICOCO, nous estimons que le gouvernement fait un pas devant et deux pas derrière. Lorsqu'il s'agit de cas qui impliquent les personnes politiquement exposées, ces cas-là ne sont pas pris en charge par les cours et tribunaux. Et que ce soit au niveau de l'administratif seulement, ces personnes politiquement exposées sont peut-être suspendues, mais effectivement, les poursuites du judiciaire manquent. Pourquoi, comme l'honorable l'a dit, la corruption n'est pas seulement au niveau de l'administration. La corruption gangrène aussi l'appareil judiciaire. Et cela doit interpeller le président de la République, parce que lui, le magistrat suprême. Je pense qu'il y a un rapport de la Cour des comptes qui déjà a donné des indices sur ce qui se passe devant les cours et tribunaux. Et aussi longtemps que les institutions étatiques ne se contrôlent pas, ne se sanctionnent pas, nous aurons toujours des problèmes d'application de la loi.
Quels sont ces indices?
Vous allez lire les rapports de la Cour des comptes, vous constatez que la Cour des comptes énumère un greffier divisionnaire qui est parti prendre l'argent de la juridiction. Sans, on incrimine seulement les greffiers, mais son chef hiérarchique qui est le procureur, il n'est pas incriminé. Vous comprenez qu'un greffier ne peut pas de sa propre volonté aller retirer l'argent pour la juridiction sans l'aval de la hiérarchie. Donc, ce sont des indices déjà qui montrent que même devant les cours et tribunaux, il y a des pratiques de corruption et cela doit interpeller le président de la République. Donc, dans une maison d'intégrité, les parlementaires contrôlent l'exécutif, l'exécutif finance le parlement et le parlement aussi contrôle les judiciaires, alors que les judiciaires sanctionnent les législatifs et l'exécutif. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans ce triangle où les institutions doivent se contrôler, les cours et tribunaux qui devraient sanctionner les législatifs et l'exécutif, et les cours aussi sont dans le même jeu que l'exécutif et les législatifs. Et cela ne peut pas effectivement permettre à ce que nous puissions lutter efficacement contre la corruption.
Voilà, il y a toutes ces initiatives. Hein. Les plus récentes, c'est l'application que vient de mettre au point Madame Elodie Tamuzinda. Il y a aussi, n'est-ce pas, ce tribunal pénal économique et financier que le chef d'État vient de créer à travers une ordonnance. Vous pensez que ces nouvelles initiatives, ajoutées à cela, les anciennes qui ont toujours existé, notamment les sites comme l'IGF, comme la PLC, et tout ça, vous pensez que ça pourrait avoir un impact réel sur la lutte contre la corruption dans ces pays, dès lors que on sait qu'on est dans un contexte, vous l'avez dit, hein, où en tout cas tous les secteurs de la vie sont quasiment affectés par cette épidémie.
Effectivement, toutes les initiatives qui viennent renforcer la lutte contre la corruption sont les bienvenues. L'application de Madame Elise, c'est une bonne application. Malheureusement, les institutions qui recevront ces dénonciations, est-ce que ces institutions-là ont les moyens de leur politique? Si je comprends bien, c'est l'APC qui va recevoir toutes les dénonciations faites par les citoyens. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que l'APC possède des moyens financiers pour investiguer, pour approfondir les dénonciations et transférer un dossier solide devant les cours et tribunaux? C'est ça le plus grand problème qui est là.
Voilà.
À ce qui concerne le tribunal, ce sont de bonnes initiatives, mais effectivement, il y aura un problème d'abord du choix des animateurs. Parce que la première des choses, on risque de mettre en place des magistrats et des juges qui ne sont pas intègres. À part l'intégrité des personnes, des acteurs, est-ce que ce tribunal aura des moyens pour effectivement organiser des procès, approfondir les enquêtes, collaborer avec la police, avec les institutions de contrôle? Est-ce que ce tribunal-là aura un budget conséquent, connaissant les coutumes et as de nos politiciens? Moi, effectivement, nous restons sous notre garde pour surveiller l'évolution de ce tribunal et, au temps opportun, nous allons nous prononcer par rapport lorsque le tribunal sera fonctionnel.
Voilà.
Pour le moment, ce sont de bonnes initiatives, mais effectivement, nous devons toujours nous poser des questions. Est-ce que ces institutions auront des moyens financiers? Est-ce qu'on va recruter les gens par concours? Il ne faudrait pas qu'on puisse nommer des gens pour effectivement qu'on ait des personnes intègres qui doivent chapeauter ce genre de structure.
Oui, et vous, Likoko, Transparency International, vous qui faites le monitoring, n'est-ce pas, par rapport à cette question, comment se manifeste la corruption, effectivement? Comment ça se manifeste réellement?
La corruption se manifeste de plusieurs façons. Vous verrez, par exemple, l'honorable est là-dedans, non? L'honorable est honorable. Nous savons qu'il est honorable. Il peut avoir les émoluments de tel degré. Mais après 5 ans, vous verrez l'honorable qui a des buildings ici à Kinshasa. Bon, ça c'est premier, ce sont les indices déjà qui doivent permettre aux services concernés, à la DGI, à l'ANR, pour effectivement combattre l'enrichissement illicite. Ça c'est la première des choses. Vous verrez qu'il y a des agents de l'État, il est directeur quelque part, mais après 3 ans, le directeur affiche un enrichissement qui pose problème. Donc, les services de l'État, les services de l'ANR, les services qui doivent collaborer avec la DGI, on doit diligenter des enquêtes pour savoir où est-ce que tu as trouvé l'argent pour effectivement manifester cet enrichissement illicite. Donc, ce sont ces genres de questions que chaque personne doit se poser. Vous êtes dans un avenir, vous verrez quelqu'un qui est en train de construire et personne ne se pose la question d'où vient l'argent de cette construction-là. Vous verrez à Gombe, il y a plein de buildings et vous vous posez la question, qui construit ces buildings-là? Or, il y a le Senares qui devrait suivre, il y a des institutions qui doivent suivre, mais toutes ces institutions ne doivent pas suivre étant donné que, ils sont politiquement orientés. Et lorsque ces institutions sont politiquement orientées, ils ont peur d'enquêter et d'investiguer.
Oui. Est-ce que vous pouvez avoir quelques éléments, n'est-ce pas, sur les conséquences de cette corruption en termes de données chiffrées?
Par exemple, vous aviez suivi la politique de la gratuité de la maternité. Ça, c'est un exemple simple. Le dernier rapport sur l'égalité des sexes en République démocratique du Congo, publié par le ministère du Plan, il dit que chaque jour, il y a 29 femmes qui meurent à cause lors de l'accouchement. Pourquoi ces femmes meurent? C'est parce qu'effectivement, vous vous souvenez que le président a lancé la politique ou le programme de gratuité de la maternité. Or, lorsque vous allez dans un hôpital, vous constatez que les mamans qui vont là-bas pour accoucher, ils payent tout, malgré le fait que le gouvernement a mis des moyens, a mis des paquets pour appuyer ces hôpitaux afin que nos mamans accouchent dans de bonnes conditions. Ça, c'est un seul exemple pour vous montrer les degrés de cette corruption où il y a 29 femmes qui meurent chaque jour. Maintenant, prenez mensuellement c'est combien, annuellement c'est combien.
Merci beaucoup Ernest Impararo. Madame Elodie Tamozinda, vous allez réagir à la... Il y a des auditeurs qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kananga dans les Kasaï Central, Hervé Kasonga.
Hervé Katsonga, Kampashi, depuis Kamanga, dans la province de Kasaï Central. Je salue l'initiative de la création d'un tribunal pénal économique et financier par le chef de l'État, mais partant des principes constitutionnels, il s'avère que cette initiative soit inconstitutionnelle en vertu de l'article 149, alinéa 5 de la Constitution du 18 février 2006 qui dispose qu'il ne peut être créé des tribunaux extraordinaires ou d'exception sur quelque forme que ce soit, ce qui prend en compte cette juridiction comme exception et non spécial, étant donné que les infractions sur ce visée sont déjà réduites par le code pénal congolais. À mon humble avis, il fallait renforcer les mécanismes de répression au niveau de ces juridictions telles que la Cour des comptes, revoir leur statut d'organisation et de fonctionnement au lieu de multiplier des institutions judiciaires.
Madame Elodie Tamozinda.
Oui, je ne voudrais pas contredire à notre auditeur qui est en ligne, Hervé qui est à Kananga. Mais je voudrais quand même lui dire que à tout moment qu'il y a une loi, à tout moment qu'il y a une ordonnance, nous devons savoir que ce sont les mesures d'accompagnement, les mesures d'application qui doivent être mises sur pied pour que les inquiétudes trouvent gain de cause. Mais je ne crois pas que le problème c'est l'institution qui soit créée, ou bien les résultats que cette institution, la valeur ajoutée de cette institution. Maintenant, est-ce que ne pas créer les institutions, c'est ce qui règle le problème? Est-ce que c'est créer les institutions qui règlent le problème? Le problème, c'est dans la mise en œuvre. Maintenant, c'est le moment, puisque nous avons nos députés avec qui nous travaillons. Nous avons aussi ces services qui sont connus. C'est à nous de dire, voilà ce que nous devons faire avant les temps pour que nous atteignions notre objectif. Puisqu'il ne faudrait pas que nous puissions commencer à nous freiner à tout moment, puisque nous avons peur. Ah voilà, il y a la multiplicité. À supposer que nous ne soyons pas dans cette multiplicité. Est-ce que nous avons réellement un changement quelconque? Il n'y en a pas. Et donc, la société civile qui doit jouer son rôle, la composante savante. Et nous n'allons pas croire que tout doit se régler au niveau des gouvernants. Les gouvernements ne peuvent pas être jugés partis. Et donc, ne soyons pas là aussi pour nous lamenter. C'est ce que la dignité humaine avait dit. Ne devons pas nous lamenter. Plutôt, nous devons mettre sur pied un mécanisme pour que réellement ce qui s'est fait se fasse convenablement. Alors, est-ce qu'il y a moyen que notre application, Tofongola Misu, soit rentabilisée et que ces tribunaux commencent à trouver des éléments adéquats et qui sont objectivement vérifiables, et que nous mettions en place les mécanismes de suivi. Nous devons suivre à chaque étape pour savoir si cette multiplicité ne vient pas juste pour gangréner une fois de plus les trésors ou les saigner, et que nous ayons aussi les indicateurs que nous pouvons palper, et d'ici 5 ans que nous disions oui, nous avons apporté notre pierre à l'édifice. Les citoyens qui se plaignent dans leur coin ne sont pas là pour bâtir. Et c'est pour cela que nous vous invitons. Nous serons à Kananga, Dieu aidant. Avec la grâce divine, peut-être nous aurons les moyens de vous atteindre. Sinon, nous aurons d'autres mécanismes de les faire en ligne. Et d'ici là, nous allons lancer la caravane. Même si nous ne lançons pas sur toute l'étendue de la République, sachez que à ce moment-là, Tofongola Miso commence déjà à courir. L'état que le tribunal s'implante, et ne vous en faites pas, ça peut être annoncé aujourd'hui. Peut-être nous l'aurons 3 ans, 4 ans après. Qui sait? Mais c'est à nous de pousser pour que cela ne traîne plus. Mais nous n'allons pas nous plaindre, nous allons dire ok, puisque nous avons besoin du cadre légal, prenons d'abord les résultats que nous sommes en train d'encaisser, d'enregistrer. Voyons comment est-ce qu'ils peuvent être rentabilisés et qu'est-ce qui n'est pas encore fait. Nous devons savoir aussi ce qui reste à faire.
Et donc, après, après une période donnée, vous allez vous auto-évaluer.
Nous devons le faire à chaque étape et nous n'allons pas nous auto-évaluer à l'interne. Nous allons le faire en collège puisque nous sommes déjà avec les parlementaires. Nous sommes avec APLC, la société civile, les experts au sein des institutions et voir comment cela peut être coordonné. Si nous continuons à dire oui, il y a quand même des institutions qui sont indépendantes, il n'y a pas d'indépendance lorsque nous sommes sur la liste grise. Et sinon, nous serons sur une liste qu'on dira, bon voilà, il n'y a plus rien à sauver. Lorsqu'on dit non, le pays est blacklisté. Donc même la lutte là sera vaine. Et nous ne sommes pas loin de cette liste noire. Mais qu'est-ce que nous attendons lorsque la liste sera noire? Mais ce ne sont pas les autorités d'aujourd'hui que nous voyons qui seront là. C'est peut-être vous, Hervé. Alors il faut déjà y travailler aujourd'hui et commencer à faire comme si c'est vous qui allez diriger demain. Merci beaucoup.
Merci, maman Élisée, et plutôt Elodie Tamuzinda. Honorable Prosper Tunda Kasongo, vous allez réagir aussi à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa, c'est Tokolo Naker.
Naker Shalom Tokolo depuis la ville province de Kinshasa. La création du tribunal pénal, économique et financier par le président Félix Tshisekedi n'est pas une bonne décision à mon avis pour résoudre les différents problèmes économiques et financiers en RDC. Il essaie de souligner que la Cour des comptes instituée par l'article 178 de la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée à ces jours, existe déjà comme une instance de contrôle juridictionnel et extra-juridictionnel des finances, biens et comptes publics. Elle juge à ce titre les fautes de gestion financière et biens publics en condamnant uniquement aux amendes car la loi ne lui reconnaît pas la compétence pénale. Et donc, au lieu de créer une nouvelle juridiction qui va encore peser sur les trésors publics et créer inutilement des chevauchements d'attribution avec celles qui existent déjà, on devrait plutôt renforcer la Cour des comptes en lui reconnaissant la compétence pénale qu'elle manque à travers une loi.
Honorable Prosper Tunda Kasongo.
Oui, merci beaucoup, Monsieur Tokolo. Je crois lui-même, il a posé le problème et il a aussi répondu un peu dans sa question. La Cour des comptes n'a pas la capacité de punir. Donc, elle fait seulement un rapport. Et ces rapports, la Cour des comptes le transmet au Parlement. Et quand il y a un rapport au Parlement, le Parlement va faire des recommandations au gouvernement. Vous voyez que ça ne suffit pas pour arriver à la répression de la corruption. Parce que la lutte contre la corruption, comme j'avais dit, il y a d'abord la prévention, la lutte et la répression. Donc le bien fondé de la création de ce tribunal, c'est pour arriver à la répression de faits de corruption. Parce que en dehors du tribunal, il y a aussi un parquet. Donc, comme nous avons dit qu'il y a des lois qui seront bientôt votées et promulguées par les chefs de l'État, donc il y a déjà là un cadre juridique. Et lorsqu'il y a le cadre juridique, je crois que les mesures d'application donc sont aisées et trouvent toujours un fondement. Donc, la Cour des comptes, quand vous dites qu'il faut créer peut-être le volet pénal dans la Cour des comptes, c'est aussi quelque chose de plus qui était réglé dans d'autres lois. Et vous savez que la République démocratique du Congo doit nécessairement s'aligner dans les conventions et les traités internationaux. Donc, ce tribunal existe dans plusieurs pays. Et que c'est un moyen efficace pour réprimer la corruption.
Charles Kivata, depuis Kinshasa, il nous écrit, il dit ceci. Le problème n'est pas la multiplication des tribunaux, mais les animateurs de toutes ces juridictions qui ne font pas correctement leur travail. Et ce sont les mêmes qu'on va nommer pour faire fonctionner ce tribunal pénal économique. Et ça produira toujours les mêmes résultats que nous décrions aujourd'hui. Et à votre avis, pourquoi les gens semblent sceptiques?
Donc, c'est ce que moi je voulais inverser. Je voudrais que les gens soient positifs. Aujourd'hui, si vous suivez avec ce que fait le nouveau ministre de la Justice, il y a beaucoup de magistrats qui sont en difficulté. Donc il faut approcher le ministère de la Justice, vous saurez comment les magistrats sont en train d'être sanctionnés. Donc, nous devons rester positifs et que l'histoire et la manière dont la République démocratique du Congo est en train de s'aligner dans le concert des nations, petit à petit, lorsque nous aurons un cadre juridique, parce que c'est ce qui nous manque en matière de lutte contre la corruption. Et la nomination des animateurs, je crois qu'il y aura aussi un mécanisme lorsque on va parler de nommer les animateurs, il y aura un mécanisme, peut-être il y aura un concours, peut-être il y a le Conseil supérieur de la magistrature est là, donc qui connaît bien le magistrat, je crois qu'il y aura une bonne sélection et que Tofungo Lamiso, donc je crois que c'est quelque chose qui tout le monde doit s'en approprier. Parce que Tofungo Lamiso, vous aussi, il faut Tofungo Lamiso. Peut-être on a nommé un juge que vous connaissez qui trempe le maître dans la corruption.
Tofungo Lamiso serait efficace si il est cette application est accompagnée par la loi que vous êtes en train de proposer.
Des lanceurs des alertes.
Sur la protection des lanceurs d'alerte.
Oui, voilà. Exactement. Donc c'est ce que nous disons que nous devons rester positifs. Nous sommes à trait de bien évoluer et nous sommes là, la Cour parlementaire, nous n'allons pas baisser les bras. Même notre nouveau président de l'Assemblée nationale, il soutient l'APNAC. Donc les parlementaires sont là pour lutter efficacement contre la corruption.
Merci Ernest Mbaro. Vous allez réagir à la réflexion de l'autre auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, au Sud-Kivu, c'est Maître Ulimwengu Kitungano. Voilà.
Maître Ulimwengu Kitungano Joseph, depuis la ville de Bukavu. Le pays n'a pas les problèmes de juridiction ou de parquet, mais les problèmes de ses animateurs, de l'immixion de l'exécutif dans les affaires judiciaires et du non-respect du principe de séparation de pouvoir. La création de ce tribunal en RDC ne peut pas montrer aux gens qu'avant sa création, les infractions relevant de sa compétence matérielle n'étaient pas poursuivies et jugées. Les détournements, la corruption dont beaucoup de nos compatriotes ont fait objet de poursuites étaient poursuivis par quelle juridiction? N'est-ce pas nos tribunaux de grande instance et nos cours d'appel? Mais on peut se demander quelle était la suite réservée à ces dossiers, leurs décisions, comment étaient-elles exécutées, dans quelles circonstances les condamnés étaient libérés, est-ce par grâce présidentielle, par libération conditionnelle, est-ce les décisions étaient assorties avec sursis? Donc, malgré la création de ce tribunal, si ces animateurs ne travaillent pas en toute indépendance et en voulant aider ces pays, si l'exécutif s'immisce dans tous les dossiers judiciaires en voulant influencer les décisions des juges et enfreindre les poursuites, ce tribunal va échouer ses missions, ses infractions seront toujours commises et leurs auteurs vaqueront librement dans les rues de Kinshasa et dans toutes les villes en homme libre.
Ernest Pemparaou.
Oui. Effectivement, bon, c'est ce que j'ai dit. Effectivement, que Maître aussi, Ulimwengu, vient de confirmer ce que j'avais dit. Qu'est-ce que nous avons comme problème avec nos politiciens? Le problème que nous avons avec les politiciens, c'est qu'ils veulent contrôler tout. Même l'eau, ils veulent contrôler l'eau. Alors qu'elles-mêmes aussi prennent de l'eau. Leur famille prend de l'eau. Donc c'est ça le plus grand problème que nous avons. Et vous aurez, ce tribunal pourra vraiment réussir si effectivement les hommes politiques ne s'ingèrent pas, ne dictent pas de décisions, ne font pas pression aux juges. Là, le tribunal peut faire le travail. À part cela, il y a les moyens financiers. Les moyens financiers manquent souvent dans nos juridictions. Il faut aller au tribunal de paix de Ndjili pour voir comment est-ce que les magistrats, comment est-ce que les juges travaillent. Il faut aller à l'intérieur. Moi, j'étais à Sakania. Il faut aller voir comment le tribunal fonctionnait là-bas. Donc, le manque de moyens est un facteur qui peut faire à ce que ce tribunal pénal, économique et financier ne puisse pas bien travailler. Il y a aussi maintenant un problème d'expertise. Nous avons effectivement toute une panoplie de juges, de magistrats, mais qui ne sont pas vraiment formés
sur les techniques d'investigation, les techniques, comment les corrompus, parce que les corrompus et les corrupteurs, ce sont des gens intelligents. Ce sont des docteurs, ce sont des PhD, ce sont des gens qui vous volent de l'argent et qui ne saura jamais s'il a volé l'argent. Il l'a mis dans un compte pour sortir dans un autre compte. Maintenant, si toi-même, tu ne connais pas les machins, tu ne connais pas les comptes crédit, débit, c'est quoi? Bon, comment est-ce qu'il pourra détecter qu'ici, l'argent a été détourné? Donc, ils doivent avoir un renforcement de capacité, un renforcement lié à ce tribunal à plusieurs réseaux informatiques, parce qu'aujourd'hui, c'est l'ère des nouvelles technologies de l'information. Mais regardez dans nos cours et tribunaux, il n'y a même pas de mail, il n'y a même pas d'internet, il y a des problèmes et des problèmes. Donc, je pense que Maître Lumengo a raison, mais nous allons pousser, nous allons faire pression pour que, effectivement, qu'on respecte quand même les standards. Hein? Monsieur Guy, vous êtes ici à Kinshasa. Madame Élisée est là-bas.
Élodie
plutôt. Mm-hmm. Il y a 5 ans, avez-vous déjà vu un infirmier qui a été recruté par concours? Un infirmier. Ou un enseignant. C'est eux qui forment nos enfants. Or, ils doivent être recrutés par concours. C'est ça le nouvel stade. C'est ça les bonnes pratiques. Est-ce que pour le faire, c'est vraiment... C'est tout, il faut des politiciens là-dedans. Donc, nous devons sortir de cette... Nous devons dire à nos politiciens chaque jour, vous les voyez, vous les dites, laissez l'administration faire le travail. Il faut promouvoir les pratiques éthiques. Merci. Il faut promouvoir les lois, les procédures, les règles que nous avons actuellement. Et vous verrez que les choses vont commencer à changer petit à petit.
Merci. Nous tendons vers la fin de l'émission. Madame Élisée Tamozinda, Élodie Tamozinda, oui, vous allez m'excuser. Nous sommes à la fin de l'émission. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre efficacement la corruption dans ces pays? Vous avez apporté votre contribution à travers votre application, mais qu'est-ce qu'il faut encore pour combattre de manière efficace et durable, n'est-ce pas, la corruption dans ces pays?
Nous avons dit que nous n'allons pas rester là pour observer, même s'il y a l'application. L'application ne servira, c'est juste un outil que nous devons utiliser. Qui doit utiliser cet outil? C'est d'abord nous les citoyens, les parlementaires, et puis les services habilités à le faire. Et nous voyons les cours des tribunaux. Et donc, c'est à nous de fixer les règles du jeu. Ces règles, ce sont les mécanismes d'application et d'accompagnement. Il y a d'abord le contrôle à 2 niveaux. Nous parlons du contrôle parlementaire à travers nos élus. Mais il y a le contrôle citoyen. Puisque même nos élus, nous n'allons pas dire, puisqu'ils nous ont ouvert la porte, que tout va marcher du tic au tac, comme si c'était sur des roulettes. Non, ce sont nos élus. À tout moment, nous devons leur demander compte, les comptes. Nous devons leur dire, voilà ce qui marche, ce qui ne marche pas, et évaluer ensemble ce que nous devons encore faire. Mais du moment où ils se disponibilisent, pour nous, c'est déjà un grand pas. Ce qui reste, nous avons aussi la présidence de la République qui se disponibilise. C'est un autre grand pas franchi. Nous avons les partenaires techniques et financiers qui ne refusent pas, même s'ils disent qu'ils n'ont pas encore tous ces moyens, mais ils vont y aller. Et même lorsque nous allons dire, est-ce que les partenaires financiers, lorsqu'ils ne financent pas, nous n'allons pas travailler pour notre pays, nous disons si, nous devons le faire. Mais de quelle manière? Et c'est là où nous devons encore approcher notre Parlement. Puisque nous n'allons pas continuer à manipuler juste les financements des partenaires externes, au moment où nous pouvons avoir des lignes budgétaires, quant à ça, nous devons avoir un fonds qui nous accompagne. Sinon, en tout cas, les partenaires sont fin projet, ils repartent, ils prennent bagage. Mais nous restons avec nos problèmes. Alors, je vais parler à Maître Ulimwengu. Maître Olimwengu, vous êtes un citoyen aguerri et donc vous serez parmi ces sentinelles pour les alertes, pour les suivis et savoir réellement si la répression suit pour palper les indicateurs que nous allons vérifier ensemble.
Merci, honorable Prosper Tunda Kasongo. C'est quoi votre mot de la fin?
Le mot de la fin, c'est que tous les Congolais doivent être engagés dans la lutte contre la corruption, ce qui met notre pays à genoux. Donc nous devons miser sur la transparence, la redevabilité et l'intégrité au sein de nos institutions. Et nous, comme parlementaires, donc dans notre fonction législative, nous devons donner à la République des lois contre la corruption. Et puis, dans le contrôle parlementaire, on doit surveiller l'utilisation des fonds publics et puis donner des recommandations pour la répression. Et nous devons renforcer la transparence dans nos institutions et puis collaborer avec la société civile avec un dialogue franc et la sensibilisation. Et enfin, donc, on doit cultiver l'éthique parlementaire.
Merci. Vous avez parlé de l'éthique, intégrité, du contrôle citoyen. Ernest Imparo, vous allez aussi conclure. Hein. Et pourquoi ne pas envisager la conception de certains cours? C'est vrai qu'il y a les cours de civisme qui existent, hein, mais dans ces cours de civisme, essayez de concevoir des programmes spéciaux, n'est-ce pas, où on dénonce certaines antivaleurs, notamment la corruption, dès l'école primaire.
Effectivement, au niveau de l'Alicoco, nous sensibilisons les écoles à mettre en place des programmes sur la lutte contre la corruption dans leurs programmes scolaires. Mais tu sais, ça prend du temps. Il faut que l'inspection, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire puissent accepter. Mais nous sommes derrière ce genre d'initiatives. Et pour l'Alicoco, effectivement, nous profitons de cette occasion pour informer l'opinion que nous lançons une campagne Toboy Kanyaka. D'ici peu, nous allons sensibiliser les gens par des dépliants, par des affiches, par des outils de sensibilisation pour effectivement montrer aux citoyens que si vous ne dénoncez pas à travers Fongola Miso ou à travers d'autres outils qu'ils ont, le pays est en train d'aller en ruine. Regardez les 10 dernières années. Depuis 2019, nous sommes en conflit. Et si vous approfondissez les causes de ces conflits, vous verrez qu'il y a des liens entre les conflits que nous avons et la corruption. Donc, nous demandons aux citoyens de dénoncer à travers l'outil de Mme Elodie, Tofongola Miso, et à travers d'autres outils que les gens connaissent pour effectivement refuser la corruption.
Merci.
Merci. C'est ça le dernier mot que nous avons.
La dignité humaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour voilà. Merci à vous tous d'avoir accepté, n'est-ce pas, de participer à cette émission. Madame Elodie Tamunzinda, nous sommes heureux de vous avoir reçu encore dans cette studio après plusieurs mois. Honorable Prosper Tunda Kasongo, ce n'est pas la première fois, en fait, c'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière fois.
Nous sommes toujours disposés.
Merci beaucoup. Ernest Impararo, qui est vraiment un intervenant régulier dans cette émission. Merci donc à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Mais aussi merci à Benjamin Moudoumbi et David Mugisa qui l'ont réalisé. Et à Sylvain Baroguere qui était à la technique. Et Jean-Claude Nsiala qui a assuré le live de cette émission à la présentation Guimaté. Merci encore et bonne suite du programme sur Radio Capi.
Merci beaucoup.